Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission de la BIP, Brigade d'Intervention Poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
21h.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanck et Michel Arbat, s'est consacrée à la vie des poètes. Avec, au gré des émissions, les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanck et Philippe Goudard.
Et Jean-Claude César.
Et ça se passe tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois. Nous parlons ce soir d'Emily Dickinson, poétesse américaine, née en 1830. C'est d'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on va chercher si loin dans le passé des poètes qui nous plaisent, mais il y en a d'autres. Et donc on a évoqué rapidement le parcours de sa jeunesse, une jeunesse déjà recluse. En fait, c'est le fil de toute cette vie, c'est qu'elle va vivre dans la maison paternelle sans jamais la quitter, quasiment. On a parlé de cette fille fragile qui est en plus petit à petit qui va abandonner toute velléité de vie sociale. Hein. Thérèse, oui.
Oui, de vie sociale et puis aussi qui va abandonner une image en fait de séduction. Lorsqu'elle parle d'elle-même, elle en parle comme étant laide. Elle se compare en quelque sorte à sa sœur Lavinia. Qui est beaucoup plus jolie, et espiègle aussi. Et au fur et à mesure de cette réclusion, elle va se considérer comme un objet, comme quelqu'un qui n'est pas séduisante.
Voilà, on a un seul portrait d'elle. Enfin, je crois qu'il y a juste un portrait enfant.
Il y a un portrait à 9 ans, oui, au crayon. Et puis un portrait au collège d'Amherst, qui est vraiment le...
Bon, elle n'est pas laide du tout. Mais enfin, bon, elle n'est pas du tout tournée vers ça, vers cette séduction. Elle a un regard assez troublant, d'ailleurs. Elle a un regard très tourné vers l'intérieur, on peut dire. Quelque chose qui est... Et on était arrivé à cette date un peu charnière qui était 1862, donc où elle a 32 ans et où elle demande conseil à Higginson, un grand critique, pour lui donner un avis sur ses vers. Quoi. Sont-ils oui. vivants ? Donc il y a cette histoire, aussi on peut dire que le malheur aussi, la mort et le malheur entourent cette vie aussi. Il y a des morts précoces autour d'elle. Les hommes qu'elle a aimés, en tout cas platoniquement, beaucoup meurent très jeune d'ailleurs, de maladie. Il y a également, maintenant, on va arriver aussi à une période qui s'assombrit beaucoup, c'est-à-dire où ce sont ses parents qui vont mourir.
Oui, c'est très juste.
Alors assez jeune.
Oui, et on peut aussi signaler qu'elle va faire néanmoins, dans cette période, deux séjours à Boston pour ses yeux. Elle voit de moins en moins. Bon, si elle s'est décidée à écrire aux critiques littéraires abolitionniste radical.
Elle l'a dit.
Je l'ai dit. Et ancien pasteur Higginson, c'est suite à un article intitulé « Lettre à un jeune journaliste » où il appelait les aspirants écrivains à remplir leur style de vie. Donc elle va lui envoyer une première lettre non signée, mais tout en joignant dans l'enveloppe son nom et quatre de ses poèmes.
Et alors, peut-être on peut parler de la... Higginson a parlé de ses rencontres, parce qu'il l'a rencontré, pas tout de suite, mais il l'a rencontré plusieurs fois, 4 ou 5 fois, je crois.
Oui, c'est ça.
Et il dit qu'il n'a jamais été aussi mal à l'aise devant quelqu'un. Pourtant, lui, il a toute sa notoriété, etc. Enfin, c'est quelqu'un de tout à fait reconnu, et il a un grand succès. Et elle arrive vers lui simplement en apportant 2 lys. Alors évidemment, il n'a pas l'habitude de parler comme ça avec des femmes. Et tout ce qu'elle lui dit semble être un peu des réponses à côté de ce que lui, de ses questions. Quoi. Alors en même temps, elle se déclare son élève. Hein. Elle va faire une sorte d'allégeance, mais sans rien changer à son style d'ailleurs. C'est ça qui est extraordinaire.
Oui. En fait, pendant 3 ans, ils vont avoir une correspondance, Higginson et Emily. Mais de fait, il viendra lors à 3 reprises la voir. Il s'est d'abord adressé à elle en ne lui cachant pas que ses vers n'étaient pas conformes aux règles de la prosodie. Elle ne demandait pas s'ils étaient habiles ou réguliers, elle demandait simplement s'ils étaient vivants. Cette correspondance longue avec Higginson suivra quelques règles formelles. Elle l'appellera mon précepteur et signera votre élève.
Alors, on a parlé de cet entourage, de l'arrivée d'événements graves quoi, autour d'elle. Il y a d'abord la mort de son père. Enfin, je crois que c'est d'abord son père.
Oui, c'est d'abord son père. Il est frappé d'apoplexie en 1874.
En disant un discours, d'ailleurs, je crois.
Oui, lors d'un discours à la Chambre des représentants. Et il mourra quelques heures plus tard. Émilie n'ira pas aux funérailles.
Elle laissera quand même la porte de sa chambre ouverte. Parce qu'il faut dire que maintenant, elle ne vit plus que dans sa chambre. Sauf quand elle descend pour converser avec des gens qu'elle reçoit, qui sont reçus dans le salon de la maison, mais elle se tient à l'écart dans un petit vestibule à côté.
Toujours vêtue de blanc.
Et toujours vêtue de blanc, ça on ne l'a pas assez dit. D'ailleurs, c'est le beau titre de Christian Bobin, La Dame Blanche, qui fait référence à cette robe blanche de coton qu'elle a décidé de porter. Et c'est lié à la légende ? S'il y a une légende particulière ou pas ? Ou c'est simplement comme ça ? C'est une sorte de volonté de moniale laïque, un petit peu,
oui,
on pourrait dire.
Voilà. Hein ? Par la suite, effectivement, un an après le décès de son père, sa mère, Émilie, va subir une attaque de paralysie et ses années seront très difficiles. Elle écrira « La maison est si loin de la maison ». Elle va petit à petit solliciter les éditeurs dans cette sorte de mélange de sentiments, d'abandon aussi, d'abandon de la mère.
Eh bien, on va peut-être lire justement une lettre à Higginson.
Oui. Cher ami, ceux-ci sont-ils plus ordonnés ? Je vous remercie de me dire la vérité. Je n'ai pas de souverain dans ma vie et ne puis me gouverner. Et lorsque j'essaie d'organiser, ma petite force explose et me laisse nue et calcinée. Vous m'avez traité de fantasque, je crois. M'aiderez-vous à progresser ? J'imagine que l'orgueil qui nous coupe le souffle au cœur des bois ne vient pas de nous-mêmes. Vous dites que j'avoue la petite faute et omets la grande. C'est parce que je peux voir l'orthographe, mais l'ignorance hors de vue est du ressort de mon précepteur. Quant à fuir les hommes et les femmes, ils parlent de choses sacrées tout haut et embarrassent mon chien. Lui et moi n'avons rien contre eux, pourvu qu'ils existent de leur côté. Je crois que Carlo vous plairait, il est muet. Et brave. Je crois que vous aimeriez le châtaignier que j'ai rencontré en me promenant. Il a soudain frappé mon regard, et j'ai cru que les cieux étaient en fleurs. Puis il y a dans le verger un bruit silencieux que je laisse entendre à certains. Vous m'avez dit dans une lettre que vous ne pouviez venir me voir maintenant, et je n'ai pas fait de réponse, non que je n'en eusse aucune, mais parce que je ne me croyais pas valoir la peine que vous veniez si loin. Je ne demande pas un plaisir aussi grand de peur que vous ne refusiez. Vous dites que cela dépasse votre savoir, vous ne plaisanteriez pas avec moi, parce que je vous crois, mes précepteurs, vous n'êtes pas sérieux. Tous les hommes me disent quoi ? Mais je pensais que c'était une mode. Étant beaucoup dans les bois, petite fille, on me disait que le serpent me mordrait, que je risquais de cueillir une fleur vénéneuse, ou que les lutins m'enlèveraient. Mais j'y allais quand même, et n'ai rencontré que des anges, bien plus intimidés par moi que moi par eux. Aussi n'ai-je pas cette assurance dans la tromperie que beaucoup pratiquent. J'observerai votre précepte, bien que je ne le comprenne pas toujours. J'ai marqué un vers dans un poème parce que je l'ai rencontré après l'avoir fait et que je ne touche jamais consciemment à une couleur préparée par une autre personne. Je n'y renonce pas, parce qu'il est mien. Avez-vous le portrait de Mrs. Browning ? Des personnes m'en ont envoyé 3. Si vous n'en avez point, voulez-vous un des miens, votre élève ?
Y aura-t-il pour de vrai un matin ? Y a-t-il ce qu'on appelle un jour ? Pourrais-je le voir des montagnes si j'étais aussi haute qu'elle ? A-t-il des pieds comme les nénuphars ? Des plumes comme un oiseau ? Nous vient-il de pays fabuleux dont je n'ai jamais ouï parler ? Oh, un savant ! Oh, un marin ! Oh, un sage venu des cieux ! Qu'il dise à une petite pèlerine où se trouve le lieu nommé matin.
The murmuring of the bees has ceased, but murmuring of some posterior prophetic a simultaneous come. The lower meters of the year, when nature's laugh is done, the revelations of the book, whose genesis is June.
La rumeur de l'abeille opère en moi une magie. Si l'on me demande pourquoi mourir serait plus aisé que le dire, le rouge sur la colline m'ôte mon vouloir. Si l'on ricane, gare, car Dieu est là, voilà tout. L'éclosion du jour hausse ma mesure. Si l'on me demande comment, à l'artiste qui m'a conçu, de le dire.
C'est lui qui commence, mais après.
La chauve-souris est bistre, avec des ailes ridées, comme un article jauni, et pas un chant ne monte à ses lèvres, du moins qui soit audible. Son petit parapluie, drôlement fendu en deux, décrivant dans l'air un arc tout aussi énigmatique, exalte le philosophe. Délégué de quel firmament, de quel subtil séjour, doué de quelle malignité par bonheur refoulé, de son habile créateur ne la met pas moins au crédit. Bénéfique, crois-moi, ces bizarreries.
The first day's night had come, and grateful that a thing,
la nuit du premier jour était venue, et heureuse qu'une épreuve aussi terrible ait été endurée, j'ai dit à mon âme de chanter.
She said her strings were snapped.
Elle répondit que ses cordes étaient cassées, son archer réduit en miettes.
And so to mend her,
la réparer me donna donc de la besogne jusqu'à un autre matin.
And then, a day as huge,
mais alors un jour aussi énorme que hier déroula devant moi son horreur
until it blocked my eyes.
Jusqu'à obstruer mes yeux.
My brain
mon
began
cerveau
to laugh.
Se mit
I mumbled
à ricaner.
Like a fool.
Je marmonnais comme une idiote.
And though, 'tis years ago,
et bien qu'il y ait des
day,
années,
my brain keeps
depuis ce jour,
still.
Mon cerveau s'esclave.
And something's odd within
encore.
The person that I was.
Et quelque chose est
and
bizarre
one,
au-dedans.
Do not feel the same.
Cette personne que
could
j'étais.
It be madness, this?
Et celles-ci ne semblent pas les mêmes. Serait-ce la folie, ça?
Le vent a frappé comme un homme fatigué, et moi, l'hôtesse, entrez, lui ai-je répondu courageusement, et donc entrez dans ma résidence. Un invité rapide, sans pied. Il eût été aussi impossible de lui offrir un siège que de présenter à l'air un sofa. Nul os ne l'attachait. Son langage était comme la pulsation d'un grand nombre de colibris d'un très magnifique taillis. Son visage une vague, ses doigts, quand il passait, faisaient naître une musique, un vibrato, comme les airs d'un souffleur de verre. Il m'a rendu visite, toujours voletant, puis comme un homme timide, à nouveau, a frappé, tout en émoi, et je me suis retrouvée seule.
C'est un plaisir précieux, quelque peu moisi, de rencontrer un livre très vieux, habillé à la mode de son siècle. Je pense que c'est un privilège de prendre sa vénérable main et la réchauffant dans la nôtre de revenir une fois ou deux à l'époque où il était jeune, inspecter ses opinions surannées, s'informer de sa pensée sur des thèmes qui nous concernent tous deux, la littérature de l'homme, ce qui a le plus intéressé les lettrés, quelles étaient les rivalités, quand Platon était une certitude et Sophocle un homme, quand Sappho était une jeune fille et que Béatrice portait la robe déifiée par Dante. Il traverse familier les faits des siècles passés comme quelqu'un arrivant en ville qui vous dirait que tous vos rêves sont exaucés. Il vivait au pays où les rêves sont nés. Sa présence est un enchantement. Vous le suppliez de ne pas s'en aller. Les vieux volumes hochent leur tête de vélin. Un vrai supplice de Tantale.
Je ne peux vivre avec toi. Ce serait la vie, et la vie est de l'autre côté, derrière l'étagère, où le sacristain garde la clé, là où il range notre vie, sa porcelaine comme une tasse. Comme une tasse dont la ménagère ne veut plus, démodée ou ébréchée. Un sèvre neuf est plaisant, les vieux sont craquelés. Je ne pourrais mourir avec toi, car l'un de nous doit attendre pour fermer les yeux de l'autre. Toi, tu ne pourrais pas. Et moi, pourrais-je rester là et te voir, te glacer, sans mon droit au frima, privilège de la mort? Je ne pourrais davantage m'élever avec toi, car ton visage éclipserait celui de Jésus, cette grâce nouvelle. Cette grâce nouvelle se ternirait, deviendrait étrangère à mes yeux nostalgiques, sauf si ta lumière était plus près de moi que la sienne. On nous jugerait, et comment? Car toi servais le ciel, tu le sais, ou tentais de le faire. Moi je ne pouvais pas, parce que mes yeux étaient saturés de toi, et que je n'avais plus un regard pour cette sordide perfection qu'est le paradis. Et si tu étais perdu, je le serais, même si la clameur de la renommée faisait réverbérer mon nom au plus haut des cieux. Et si tu étais sauvé, et moi condamné à être où tu ne serais pas, cela serait pour moi l'enfer. Ainsi sommes-nous contraints de nous rencontrer séparés, toi là-bas, moi ici, avec juste la porte entrebâillée que sont les océans, la prière et l'aliment blanc du désespoir.
Thank you.
l'aliment blanc du désespoir. Voilà comment Emily Dickinson parle peu de cette... ce dernier texte est une déclaration d'amour. En même temps, on peut se... Il y a une grande, une nouvelle passion qui va arriver donc dans sa vie. Elle a maintenant plus de 40 ans, je pense, quand elle rencontre le juge Lord. Et cet homme, c'est un petit peu encore un homme établi.
Oui, il a 18 ans de plus qu'elle déjà. Voilà. C'est un ami de son père depuis l'université.
Voilà, ce sont souvent des amis du père ou des gens qui ont fréquenté.
Voilà, et lui, il est lui-même sénateur aussi. Donc il a la dignité, la notabilité.
Et là, oui, commence une histoire
elle. Certains disent que ça a été sa plus grande passion. Bon, quoique les critiques soient partagées, mais enfin, la plupart revendiquent ce point de vue.
Ils sont gonflés, les critiques, d'aller mesurer les degrés de passion des poètes. Mais bon, en tout cas, on peut dire que c'est avoué, c'est quelque chose qui est porté de plus en plus, parce qu'au fur et à mesure qu'elle vieillit, elle le dit elle-même, nous avons passé l'âge des conventions, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui se... Ça arrive, et puis ça va être de plus en plus marqué aussi avec d'autres rencontres.
Elle lui écrit quand même « Mon beau Salem me sourit. Je cherche son visage si souvent, mais j'en ai fini avec les faux-semblants. J'avoue que je l'aime. Je me réjouis de l'aimer. Je remercie le Créateur du ciel et de la terre qui me l'a donné pour que je l'aime. L'exaltation m'inonde et je ne puis trouver de chenal. Le ruisseau devient mer rien que de penser à vous. Me punirez-vous ? Incarcérez-moi en vous-même, rose punition. C'est se perdre avec vous dans un dédale qui n'est ni la vie ni la mort, bien qu'il fût intangible comme l'une et fougueux comme l'autre. Si ce n'est pas une déclaration d'amour, qu'est-ce que c'est ?
Et bon, les auditeurs ne voient pas, parce qu'il y a un véritable pugilat de regards qui se passe derrière les micros. La thèse de la passion brûlante est complètement désavouée par Thérèse.
Oui, je pense que c'est une instinctive ardeur épistolaire, parce qu'en fait, lorsqu'il y a ce besoin vital d'être aimé de loin et en gardant ses distances... Après la mort de sa femme en 77, lorsque le juge a des visites de plus en plus fréquentes à Amherst, elle lui écrit aussi, lui écrira plus tard dans une lettre, elle lui oppose d'abord un refus lorsque sa femme meurt, et elle lui écrit « Ne sais-tu pas que non est le mot le plus sauvage dont le langage est détenteur ?» Donc le plaisir de la quête semble emporter aussi sur l'identité de l'aimé.
Oui, bien sûr. Non, mais quand on parle de passion, c'est pas forcément. Enfin, c'est une passion aussi qui se vit beaucoup dans l'imaginaire. Hein. De toute façon, il n'y a pas. Enfin, apparemment, il n'y a pas eu d'autres modes pour elle de rencontrer des hommes. Enfin, c'est ce que semblent dire tous les gens qui écrivent sur elle, quoi. Qu'il y a quelque chose de désincarné, en tout cas, désincarné du côté du rapport charnel avec les hommes. Pas du tout désincarné dans son contact avec la nature, ni avec toutes les choses concrètes de la vie. Mais de ce côté-là, il y a quelque chose, ça fait penser un peu à des lettres mystiques, un petit peu, aux lettres de la religieuse portugaise, par exemple.
C'est à partir de ces bribes retrouvées que l'on peut s'interroger. On le sait par des brouillons qui ont échappé à la vigilance de la destruction de la correspondance qu'Émilie avait exigée de
Lavinia. Voilà, parce que à sa mort, elle avait exigé que soient brûlées toutes les lettres au juge Lord. Curieusement, des choses sont passées, enfin d'autres lettres ont été retrouvées. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire quand même ce qui se passe dans... Il y a aussi la mort de Samuel Bowles, qui était un de ses maîtres aussi. Et puis il y a quelques connaissances qui commencent à se faire autour d'elle et qui l'incitent aussi à publier. Il y a la rencontre avec Mabel Todd. À cette époque-là, tu peux nous en dire
deux mots. La rencontre avec Mabel Todd est importante parce que on le verra tout à l'heure. Hein, Mabel sera une des, je dirais, d'une manière posthume, donc à la mort d'Emily, qui sera la plus active pour faire publier l'œuvre d'Emily Dickinson. Mabel est importante familialement puisqu'elle est un peu l'amoureuse de son frère, qui est déjà marié et qui va donc entretenir une liaison amoureuse avec elle. Ce qui suscitera enfin ça, et puis des problèmes fonciers, on le verra après la mort d'Emily, suscitera des brouilles entre Mabel et Lavinia.
Enfin, toujours est-il qu'Austin, le frère d'Emily, remettra à Mabel toute cette correspondance dans une grande enveloppe marron, et cette correspondance qui n'a pas été brûlée par Lavinia.
J'ai senti un enterrement dans mon cerveau. et des gens en deuil allaient et venaient, à pas lourds, lourds, incessants, au point qu'il me sembla que tout sens explosait. Et quand tous furent assis, un service comme un tambour martela, martela sans cesse, au point qu'il me sembla sentir mon esprit s'engourdir. Et puis je les ai entendus soulever une caisse et traverser mon âme en grinçant, avec encore ces mêmes bottes de plomb. Puis l'espace se mit à sonner le glas comme si tous les cieux étaient une cloche, et l'être rien qu'une oreille, et moi, et le silence, une race bizarre, échouée, solitaire ici. Et puis une planche de ma raison cassa, et je tombais, tombais encore, cognant un monde à chaque plongée, et alors je perdis connaissance.
Pourquoi c'est vous que j'aime, monsieur ? Parce que le vent n'exige pas de l'herbe qu'elle explique. Pourquoi, quand il passe, elle ne tient pas en place ? Car il sait, et pas vous, et pas nous. Il nous suffit que la sagesse soit telle. L'éclair n'a jamais demandé à un œil pourquoi il se fermait à son passage, car il sait qu'il ne parle pas, et que parmi les raisons que les mots n'expriment pas, il en est que les gens plus délicats préfèrent. Le lever du soleil, monsieur, me contraint, parce qu'il est le lever du soleil. C'est pourquoi je vois, moi, que je t'aime.
C'est si terrifiant que ça vous met en joie.
It half captivates.
Tellement au-delà de l'horreur que ça vous captive presque. L'âme le suit du regard, tranquille. Connaître le pire fait taire la peur. On défaille à scruter un fantôme, mais en l'agrippant, on le conquiert. Comme le tourment, maintenant s'apaise. Le suspens déchirait comme une scie. La vérité est nue et froide. Mais elle tiendra. Si d'aucuns en doutent, nous leur désignons la prière. Mais nous, qui savons, arrêtons d'espérer dès maintenant. Regarder la mort, c'est mourir. Laisse juste partir le souffle et même l'oreiller contre ta joue. Ne dors pas aussi bien.
Mine, by the right of the white election. Mine, by the royal seal. Mine. By the sign in the scarlet prison, bars cannot conceal. Mine, here, in vision and in veto. Mine, by the grave's repeal. Titled, confirmed, delirious charter. Mine, long as ages steal.
Thank you.
Le mystère d'Emily Dickinson, c'est un petit peu ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire cette œuvre qui est très prolifique, parce que c'est quand même quelque chose comme 1600 poèmes. Ce sont des poèmes qui ont été... C'est comme une œuvre jamais achevée, d'une certaine manière aussi, parce que beaucoup de textes ont été refaits, réécrits de sa propre volonté. Hein, c'est-à-dire il y a des tas de versions différentes, parfois, de mêmes poèmes repris. Et puis, il y a aussi... un problème de traduction, qui est le problème général de toutes les traductions de poésie, parce que c'est très très difficile de passer d'un univers, d'une langue à une autre. Mais on a été troublés, nous-mêmes, en lisant cette œuvre, de trouver des traductions qui étaient tellement éloignées, et aussi parfois d'avoir des préférences, ou de dire que notre préférence naviguait entre deux traductions. C'est-à-dire que telle strophe ou tel vers de l'une était beaucoup plus plaisant pour nous. Donc ça nous est très difficile de donner, il n'y a pas de jugement à donner là-dessus, mais peut-être vous pouvez mieux nous en parler, ou même simplement citer des exemples.
Oui, en citant des exemples, on a trouvé traces de traductions bien différentes d'Alain Bosquet à Françoise Delphi, et aussi de versions anglaises. En particulier, alors, pour exemple.
The day undressed herself, her garter was of gold, her petticoat of purple, just, her dimities as old, exactly as the world, and yet the newest star, and rolled upon the hemisphere, bewrinkled much as her, too near to God to pray, too near to heaven to fear, the lady of the Occident, retired without a care. Her candle so expire, the flickering be seen on ball of mast, in foreign port, and spire, and window pane.
La journée s'est déshabillée, la jarretière était d'or, son jupon tout de pourpre uni fait d'une étoffe exactement aussi vieille que le monde, et pourtant l'étoile la plus nouvelle, enroulée dans son hémisphère, est aussi ridée qu'elle. Trop près de Dieu pour prier, trop près du ciel pour s'inquiéter, la dame de l'Occident se retira sans le moindre souci. Sa chandelle expire de façon que son vacillement se voit sur la voûte des mâts du Bosphore, les coupoles et les vitres des fenêtres. Alors là, effectivement, dans cette version, on parle du Bosphore et il y a des traductions. Mais
pour qui n'a pas le texte sous les yeux, c'est très difficile. Est-ce que tu peux relever, par exemple, quelques... Oui, cette histoire du Bosphore, par exemple, qui n'apparaît pas...
Qui n'apparaît pas dans d'autres textes anglais, dans d'autres versions anglaises. Par exemple, c'est un exemple.
Ok, et c'est pourquoi ? Alors, comment on peut expliquer ça ? Comment peut-on expliquer ça ?
Je ne sais pas, parce que, en fait, les textes ont été retrouvés par Lavinia, ils ont été par la suite traduits par Mabel, ils ont été retraduits aussi par Higginson.
D'accord, on ne fait pas disparaître le Bosphore comme ça, on peut faire disparaître, je ne sais pas, un mot anodin, mais Bosphore, c'est énorme. Quoi.
C'est énorme. Donc, bon, là, c'est un exemple mineur, il y a des tas d'exemples de ce type.
Mais je pense qu'il peut y avoir une explication... qui serait la suivante. Déjà dans sa jeunesse, quand elle a essayé de publier ses premiers poèmes, d'ailleurs à son insu, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas publier, et on en a trouvé donc dans Le Républicain, d'ailleurs, on a pas signé, je crois. Et déjà à cette époque, on transformait les poèmes qu'on trouvait d'Émilie, parce qu'on trouvait qu'elle outrepassait les règles traditionnelles. Donc peut-être que certains traducteurs sont tombés sur des poèmes qui avaient déjà été transformés dans la version originale.
D'accord. Mais alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est difficile parce qu'on n'a pas le texte sous les yeux. Est-ce que, par exemple, dans ce même texte-là que tu viens de lire, est-ce que tu peux nous proposer une autre traduction ? Alors, il y a des...
Mais oui.
Alors, c'est moi qui ai, voilà, oui. C'est moi qui ai la source, mais ça peut se dire, hein, on n'est pas...
Oui, mais c'est toi qui as la source.
Les oreilles
alors,
n'ont
voilà,
pas de mur.
La source est entre une traduction qu'on trouvait sur ce livre, Carla, Dieu, c'est la nuit, et puis une autre traduction qu'on trouvait chez Françoise Delphi.
Oui, par exemple, on se souvient par exemple qu'il y avait des jarretières et des jartelles, et qu'il y a eu tout un débat sur la question. Est-ce que
exemple...
ça a une telle importance ? Mais par contre, ailleurs, parfois, ça en a, c'est très très étonnant. Je suis allé au paradis, par exemple. C'est un petit village, vous vous souvenez de ce... Non. Bon, on ne va pas s'enferrer là-dessus. Nous n'avons pas ce qu'il faut sous la main pour défendre notre beefsteak. Donc, nous allons repasser au texte. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il y a de plus intéressant. Ben justement, je crois que le texte qui vient, c'est ce texte « J'allais au paradis » que nous dit Julien.
Je suis monté au ciel. C'était une petite ville, éclairée d'un rubis, écume de duvet, plus paisible que les prés sous la rosée. Beau, comme des images jamais peintes par l'homme. Des gens, tels des phalènes, arachnéens leur corps, leurs taches de tulle, déidèrent leur nom, heureuse presque. Je pourrais l'être, en compagnie si choisie.
Le petit mendiant meurt jeune. Ça a quelque chose à voir avec le froid, et quelque chose à voir avec les pieds qui se traînent, et peut-être avec le monde cruel, souriant et poli, qui a suivi son chemin de percale, qui n'a pas entendu la plainte timide du pain, douce dame, la charité. Parmi les enfants de la rédemption, si les pieds qui se traînent peuvent s'arrêter, et les pieds nus oubliés, ainsi que le grésil, le vent coupant, les mains enfantines étaient tendues et importunes, levées alors avec adoration vers celui qu'aucun manteau en haillons va jamais supplier en vain.
Si seulement tu étais malade, que je puisse te montrer que je pourrais tenir une longue journée, même si ton attention ne se posait sur moi, pas le moindre signal pour me rassurer. Si tu étais seulement un étranger dans un pays hostile, et que c'était à ma porte que tu t'arrêtais, attendant une libéralité au passage, rien de plus. Si tu étais accusé et moi le tribunal, déclaré coupable, condamné, l'hermine pas pour moi, je partagerais ta condition, ta défaite, boirais avec toi la coupe d'infamie. Si tu étais le locataire de la maisonnette étroite, me permettre d'être la maîtresse de maison, à ton humble service me contenterais. Il n'est aucun service que je ne te rendrais, mourir ou vivre. Le premier, doux ami, je l'ai prouvé avant de te rencontrer, car la vie, c'est l'amour.
I'm wife. I've finished that. That other state. I'm czar. I'm woman now. It's safer so. How odd the girl's life looks behind this soft eclipse. I think that earth seems so to those in heaven now. This being comfort then, that other kind was pain. But why compare? I'm wife. Stop there.
Was warm at first, like us, until there crept upon a chill like frost upon a glass, to all the scene be gone. The forehead copied stone, the fingers grew too cold, to ache, and like a skater's brook, the busy eyes congealed. It straightened, that was all. It crowded cold to cold. It multiplied indifference, as pride were all it could. And even when with cords 'twas lowered like a weight, it made no single nor demurred, but dropped like adamant.
Trago fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim. Mais amado, eu canto um país sem fim, o mar, a terra, do meu fado. De mim só me falto eu, senhora da minha vida.
Nous parlons d'Emily Dickinson, poétesse américaine du 19e siècle, même du début du 19e siècle, puisqu'elle est née en 1830. Et donc on a suivi son parcours, ma foi, qui, c'est une vie dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'événements. Hein, et on arrive vers la fin de ce parcours qui est assombri par beaucoup de... On a parlé de sa passion avec le juge Lord, qui va d'ailleurs... mourir bientôt, enfin beaucoup de deuil la frappe. Vous pouvez nous en parler un petit peu, cher camarade Dickinsonien.
Ah ben, donc en 74 c'est son père, en 75 sa mère est paralysée. Je crois que Lord décède en 82, sauf erreur de ma part. Et en 84, Emily tombe très malade. On dit qu'elle subit une attaque de nerfs, mais c'est probablement cette fameuse maladie de Bright qui va l'emporter 2 ans plus tard.
Maladie de Bright, c'est une affection rénale, d'après ce qu'on a lu plus ou moins en ignorant, mais qui aussi provoque des affections des yeux, des pressions nerveuses, une attaque profonde.
Donc elle a dû avoir deux dernières années très difficiles au niveau de la santé, de la survie. Et dans cette période-là, elle écrit beaucoup moins, et on s'aperçoit qu'elle devient très elliptique dans ses poèmes. Elle écrit des choses très courtes, très elliptiques, qui correspondent à cette dégradation de sa santé.
Ce qui est d'ailleurs qui correspond à un des deux livres dont on a parlé, édité là dans la collection Poésie Gallimard, qui est un des recueils de très courtes pièces, un recueil entier. Aussi important que le reste, d'ailleurs.
Oui, donc les quatre, comme on le disait tout à l'heure, les quatre décès qui la marquent beaucoup, c'est donc Lord en 84, Wordsworth en 82, sa mère en 82 et son neveu, très important, son neveu Gilbert, qui meurt en 83.
Wordsworth. D'accord, parce qu'il y a Wordsworth, ne pas confondre avec le poète Wordsworth.
Le référent.
C'est le référent.
Dont on a parlé lors de l'émission précédente. Donc sa mère en 82 et son neveu en 83. Donc ces quatre décès la marquent très profondément.
Alors ce qui est étonnant, c'est effectivement que c'est l'aventure posthume, et puis après sa mort, et bien longtemps après, le vif intérêt qui va naître pour sa vie et son œuvre, intérêt contemporain qu'on retrouvera par la suite.
Là, d'abord, l'histoire de l'édition, ça vaut la peine d'être racontée, quand même, parce que d'abord, elle lègue, c'est sa sœur, c'est Lavinia, sa sœur.
C'est sa sœur Lavinia qui
est devenue vieille, va vraiment défendre avec beaucoup de vigueur, va faire tout pour que sa sœur soit publiée. Alors, ça finit par sortir, je crois, sous forme d'un petit fascicule tiré à 500 exemplaires.
Oui, 480 exactement. En un seul volume.
Et alors, en plus, c'est tiré à compte d'auteur, parce que l'éditeur dit, écoutez, nous ne voyons pas trop l'intérêt de publier ça. Par contre, si vous voulez payer les plombs, comme il dit à l'époque, nous le ferons. Et là, c'est publié, et tout d'un coup, ça part à une vitesse folle. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 7 ou 8 éditions qui se suivent au départ, au bout de 2 mois, puis tous les mois, et c'est une espèce de succès éditorial incroyable.
Oui, à partir de novembre 1890, en fait, il y a un choix de 115 poèmes préférés qui vont être publiés.
Voilà, il faut rappeler qu'il y a quand même 1600 poèmes dans la...
1789.
Exactement, poèmes. Donc, la révolution littéraire.
Cette aventure posthume, il y aura à nouveau d'autres ruptures, puisque Lavinia va traduire et publier ses poèmes avec Mabel. Et Mabel et Lavinia se fâcheront. Donc on va avoir à nouveau une autre rupture dans les publications.
Voilà, c'est-à-dire ma belle refusera de continuer à travailler parce que c'est elle qui faisait aussi le recopiage des brouillons d'Émilie. Et donc, à un moment, elle abandonne, il se fâche pour une histoire sordide de terrain.
De terrain, voilà.
Qu'elle aurait prêté, qu'elle veut reprendre. Enfin, c'est très... Ça ne mérite pas beaucoup. Mais par contre, on peut se dire, le succès immédiat, il est peut-être lié aussi à la personne, aussi à l'histoire de cette femme recluse, aussi au côté un peu folle, quoi, il faut le dire. Enfin, elle-même parle tout le temps de la folie. Hein. Son cerveau est menacé tout le temps dans ses textes. Il y a quelque chose d'extrêmement... d'extrême dans sa situation intérieure. Elle le met en avant, et peut-être que ça aussi, ça a fait pour la rumeur et l'engouement qu'il y a eu au début.
Mais comme tu le dis, hein, ces premières éditions en 1890, 91, 93 et 96 vont avoir beaucoup de succès, mais ce seront des éditions transformées. C'est-à-dire qu'on a transformé les poèmes d'Emily Dickinson. On lui a rajouté, comme on le disait la dernière fois, de la ponctuation, des majuscules, parfois des termes qui étaient
des
plus...
Bosphore.
Voilà, par exemple Bosphore. Et il faudra attendre jusqu'à, mais très très longtemps après, en 1954, pour avoir une première édition critique avec les originaux des textes d'Emily Dickinson, très longtemps après.
Voilà, ouais, et on n'a pas tout en plus, on n'a pas tout.
Non, on n'a pas tout. Et elle disait, presque justement, publier, c'est mettre aux enchères l'esprit humain.
Oui, bon, ça c'est son point de vue extrême. N'empêche qu'elle l'a cherché à le faire au cours de sa vie. On peut modérer, tempérer ce qu'elle dit. Ça c'est au début qu'elle le dit. Et puis après, il y a quelque chose comme une envie, peut-être, en tout cas elle cherche à se faire éditer. Et donc il y a ce. On sait aussi qu'il y a des lettres qui ont été retrouvées très récemment. Enfin, il y a des tas de choses sur la vie d'Emily Dickinson qui restent à découvrir.
Oui, je pense qu'il reste à découvrir.
La fille de Mabel a été dépositaire de ses lettres. Millicent était dépositaire aussi de ses lettres.
Voilà, on sait aussi que les héritiers de Lord, par exemple, ont encore des malles entières de lettres écrites par Emily Dickinson qui ne sont jamais sorties de l'ombre. Voilà. Donc, simplement, on va peut-être relire encore quelques textes. C'est plus intéressant d'entendre Emily Dickinson que... nos commentaires.
Ned et moi parlions de Dieu, et Ned m'a dit, tante Émilie, est-ce que le juge Lord appartient à l'Église? Je ne crois pas, Ned, pas spécifiquement. Pourtant, je croyais que c'était un de ces types de Boston qui jugent que c'est ce qu'il convient de faire. Je crois qu'il ne se soucie pas des apparences, Ned. En tout cas, mon père dit que s'il y avait un autre juge comme lui dans le Commonwealth, la pratique du droit aurait un sens. Je lui ai répondu qu'à mon avis c'était probable, tout en me rappelant que je n'avais jamais jugé de procès en votre présence sauf le mien, et ce, avec votre tendre concours. Je suis restée silencieuse. Je voulais cajoler le garçon pour ses paroles ferventes, mais ai-je fait la différence? Ne savez-vous pas que vous m'avez ôté la volonté et que je ne sais où vous l'avez mise? Aurais-je dû vous brider plus tôt? Aimez bien en sachant dire non. Oh, mon trop aimé, sauvez-moi de l'idolâtrie qui nous écraserait tous deux, signe même de ma plus extrême voile.
Comment le rouge-gorge ose-t-il chanter à l'oreille d'hommes et de femmes qui, depuis leur dernier bilan, ont réglé leurs notes à l'année, payé tout ce que la vie avait gagné d'un coup, pour solde de tout compte. Et à présent, ce que peuvent vie ou mort est sans substance. Insultant est le soleil, pour celui dont la lumière mortelle, le ray d'immortalité, le lègue à la nuit. Que toute rumeur se taise, par respect envers lui, dont le jardin a lutté contre la rosée, vaincu au point du jour. Les abeilles sont brunes, sanglées d'or, boucanières, sonores. Naviguent avec ostentation et vivent de mousseux sacrés, non contingents, suc de la colline, jarre qu'une cassure de l'univers ne pourrait désemplir.
Une note d'un oiseau vaut mieux qu'un million de mots. Il n'y a qu'une épée par fourreau.
Le fruit défendu a une saveur qui nargue les vergers licites. comme il semble alléchant, couché dans sa cosse, le petit poids cadenassé par le devoir. Ce petit cœur barbouillé est tout à moi. Je l'ai gagné avec un pain au lait, tabernacle semé de taches de rousseur. Mais il ne le trouve pas vilain du tout, celui qui voit le visage de l'âme et non ses genoux.
La généalogie du miel n'importe à l'abeille. Ni la filiation de l'extase ne retient le papillon dans ses vols pailletés vers la cime d'un imperceptible objet. La voie libre vers Tripoli est un souci plus essentiel.
Un coup mortel est un coup vital pour certains qui, avant leur mort, n'étaient pas venus à la vie, qui, s'ils avaient vécu, seraient morts. Mais quand ils moururent, la vitalité vint.
N'approche pas trop près de la maison d'une rose. Les ravages d'une brise ou les crues d'une rosée en alarment les murs. Ni n'essaie de lier le papillon, ni ne franchis les grilles de l'extase. Habitez le précaire de la joie et le gage.
Une horloge au fond du ciel vient d'arrêter son battant. C'est enfin dimanche. Une femme qui n'a jamais fait de mal à personne attend dans sa robe de neige, cachée derrière la mort, la suite des événements. On la dépose précautionneusement dans un cercueil blanc que l'on descend dans le hall de la maison paternelle. La porte est ouverte sur le jardin lapidé par le soleil. Des dizaines de papillons aèrent le suffocant bleu du ciel. Les abeilles dorées, qu'Émilie arrachait à leur destin d'esclave en les couronnant dans ses poèmes, bourdonnent pour elle un requiem. Vinnie, sœur d'Émilie, met entre les mains croisées de la morte deux héliotropes à fleurs blanches, odorantes, pour qu'elle les remette au juge Lord qu'elle aimait. Le cercueil fermé, on pose sur le couvercle quelques violettes fraîches et des fougères à la sérénité crispée. Le pasteur d'Amherst lit un psaume. Le révérend Jenkins expédie une prière et le colonel Higginson, frileux découvreur du génie d'Emily, déclame le dernier poème d'Emily Bronte, s'ouvrant par une déclaration de bravoure face aux ténèbres. « Mon âme n'est pas lâche ». Emily Dickinson, adolescente, récitait ce poème à sa sœur dans le noir de leur chambre avant de s'endormir. Il n'y a aucune place pour la mort, aucun atome qu'elle puisse anéantir, depuis que tu es l'être et le souffle, et ce que tu es jamais ne sera détruit. Plus rien d'autre ne sera dit.
On ne brise pas le cœur avec un gourdin ni avec une pierre. Un fouet mince, au point d'être invisible, j'ai pu le voir cingler la magique créature jusqu'à ce qu'elle tombe. Le nom de ce fouet, trop noble pourtant, pour qu'on le révèle alors. Magnanime est l'oiseau débusqué par le garçon qui chante pour la pierre dont il meurt.
Vint un vent comme un clairon. Il vibra à travers l'herbe. Sur la touffeur passa un vert frisson de si mauvais augure que nous barrâmes portes et fenêtres, comme pour un spectre émeraude. L'Apocalypse, au même instant, posa son électrique mocassin. Sur une horde étrange d'arbres pantelants, de palissades échappées, de fleuves où fuyaient les maisons, ceux-là virent qui vécurent ce jour. La cloche dans le clocher affolé sonnait la fugace nouvelle. Tant de choses viennent, tant de choses s'en vont. Et pourtant le monde demeure.
In winter, in my room, I came upon a worm, pink, lank, and warm. But as he was a worm, and worms presume, not quite with him at home, secured him by a string to something neighboring, and went along. A trifle afterward, a thing occurred. I'd not believe it if I heard.
but state with creeping blood, a snake with mottles rare surveyed my chamber floor. In feature as the worm before, but ringed with power. The very string with which I tied him, too, when he was mean and new, that string was there. I shrank. How fair you are, propitiation's claw. Afraid, he hissed, of me? No cordiality? He fathomed me, then to a rhythm slim, secreted in his form, as patents swim, projected him.
Ainsi s'achève cette deuxième émission consacrée à Emily Dickinson. On espère vous avoir donné envie de lire ces textes magnifiques, cette œuvre étrange, inclassable, anachronique, on pourrait dire, une espèce de d'irruption de poésie moderne dans un univers complètement ancien, austère, reclus. Alors, on redit peut-être les références des livres. Il y a une belle somme qui est publiée chez Flammarion dans la traduction de, je ne sais plus son prénom, Claire.
Non, Françoise.
Françoise Delphi, pardon pour elle. Également les deux volumes qui sont parus en Poésie Gallimard, Car l'adieu, c'est la nuit. On remercie également les musiciens qui ont apporté leur talent pour illustrer cette émission, en particulier Egberto Gismonti, dont on a passé deux passages, l'un extrait de Sol do Meio Dia et l'autre de son album Infancia. Également, pardon, le musicien australien John Metcalf, dont on entendait Seven Days After, pardonnez mon accent anglais déplorable. Enfin, également Marissa, qui chantait Mon Fado, et des extraits du Quatuor pour la fin des temps d'Olivier Messiaen. Voilà, merci à Caroline Addis, merci à Jesse Mitchell, merci Thérèse Bonetta, merci Yves Flanck. Vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion le dimanche matin à 10h, également les mardis suivants. Et puis vous pouvez aussi écouter ces émissions en archive. En général, un mois plus tard, elles se retrouvent dans le site Michel Arbatz, www.michelarbatz.com. Vous pouvez aussi contacter la BIP pour l'inviter à venir dire des textes par cœur, partout, par surprise, dans vos lieux de plaisir, dans vos lieux de travail, dans vos lieux de loisirs et dans vos lieux de paresse. Bonsoir.